Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour Culture Média, au menu Média et Culture au sens large, très large, puisqu'il sera question de luxe, mais également de musique électro, mais également de l'univers du jeu vidéo qui est devenu, je le cite, la première dépense culturelle mondiale, davantage que la somme du cinéma et de la musique réunies. C'est le principe d'une somme, on réunit. Vous retrouverez évidemment, là aussi on est réunis, Hélène Manarino et son portrait inattendu, Bertrand Chameroy pour son écran de veille, puis Eva Rock pour le zapping du lendemain, et avant cela, dans quelques instants, le journal des médias d'Antoine Jean. Notre infomédia va tenter de comprendre la luxueuse revue Mastermind, revue française mais éditée en anglais, avec des entretiens de personnalités comme Patti Smith, Boris Cyrulnik ou encore François Hollande, le tout sur papier glacé, et 45 pages de pubs de produits de luxe, un joli mystère. Canard PC, vous connaissez ? Non, ce n'est pas un nettoyant, mais une galaxie de supports autour d'un magazine de jeux vidéo, de chaîne YouTube et également de chaîne Twitch. Ils lancent une campagne Ulule pour financer leur futur projet. Ils ont déjà récolté 4 fois ce qu'ils attendaient. Explication avec Yvan Godet, c'est le directeur de la publication. Enfin, Offenbach, duo français d'électrofolk, pour le dire vite, déjà streamé à plus d'un milliard d'écoutes dans le monde. Ils sortent un nouveau single, Wasted Love, qu'on va entendre. Et il y aura en prime le double portrait inattendu des deux membres, César et Dorian. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Antoine Genton.
Salut Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
À la suite de la série la plus vue sur Netflix cette année, Lupin, et on connaît la date de la prochaine partie de la première saison, un dossier pour informer les enfants sur le handicap, et puis la finale de la Ligue des Champions en clair sur une chaîne assez inattendue.
Mais puis ça vient de tomber, ou plutôt ça vient de ne pas tomber, pas d'audience ce matin.
Non, problème technique chez Médiamétrie, je reste les yeux rivés sur mon téléphone et mon ordinateur pour vous les donner dès que ces audiences tomberont, et puis si c'est pas pour dans ce journal des médias. Ce sera un peu plus tard dans l'émission, un peu plus tard dans la matinée sur les réseaux sociaux d'Europe 1.
On commence donc ce journal des médias, Antoine, avec à la une la suite d'une série très attendue.
Oui, donc celle de Lupin, l'un des grands succès de Netflix en France et dans le monde. C'est la série la plus regardée sur la plateforme cette année. 76 millions de vues selon Netflix. Et ce n'est pas fini. La seconde partie de la première saison arrive dans un mois, le 11 juin. La date a été confirmée hier avec en prime, une bande-annonce.
Ça va trop loin cette histoire.
Il a kidnappé mon fils.
Il va payer pour ça.
Vous le connaissez ?
Bah évidemment, Hassan Diop.
D'après la police, il s'agirait Hassan Diop.
L'homme le plus recherché de France.
Hassan Diop, joué par Omar Sy, bientôt de retour donc le 11 juin, date qui en réalité avait été donnée dès avant-hier par Netflix, mais de manière cachée. Est-ce que vous savez comment, Philippe ?
Pas du tout, dites.
Eh bien la date se trouvait dans l'heure à laquelle Netflix avait envoyé le tweet qui annonçait l'arrivée prochaine de la suite de Lupin, tweet envoyé à 11h06.
Oh là là juin. Tellement malin. À la une, également, un sujet de société très important qu'on peut trouver dans le dernier numéro d'Astrapi.
Oui, c'est le handicap. Et si on en parlait, titre le magazine destiné aux enfants âgés de 7 à 11 ans, il consacre un dossier à ce sujet et propose les témoignages de 3 enfants handicapés, Anna, Nathan et Thomas, avec un objectif très clair, mieux informer sur les causes et les conséquences sociales, notamment des handicaps. Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi.
Le point de départ, c'était de se dire que l'exclusion, elle vient pas forcément d'une méchanceté ou d'une volonté de faire mal, que ce soit chez les enfants ou les adultes, mais de se dire que souvent ça vient de l'ignorance, la méconnaissance de l'autre ou la peur d'être maladroit, de mal s'y prendre. Donc voilà, on a vraiment voulu donner la parole à 3 enfants qui sont porteurs de handicaps très différents, certains physiques, d'autres psychologiques, pour qu'ils puissent vraiment exprimer ce qu'ils ressentaient, que ce soit à l'école, avec les autres enfants ou ailleurs, et le regard qui est porté sur eux. Et voilà, l'idée, c'était vraiment qu'eux puissent exprimer les choses qui leur faisaient de la peine, ou au contraire, les choses qui leur font plaisir et qui les aident, pour que les autres enfants, les lecteurs, entre autres, puissent aussi se dire « Ah ben tiens, la prochaine fois, je m'y prendrai peut-être comme ça, voilà. » Parce que nous, on pense que la plupart du temps, ça vient, on ne sait pas forcément s'y prendre quand on tombe face à un enfant handicapé.
Et pour encore mieux savoir s'y prendre, les 3 enfants qui témoignent donnent des conseils à la fois simples et complémentaires.
Ce que je trouve intéressant justement, c'est qu'on a 3 enfants avec 3 conseils différents, parce que justement, ce qui ressort, c'est que ce sont pas des... le handicap ne fait pas d'eux un groupe homogène, mais au contraire, on a 3 identités différentes qui sont leur personnalité et qui ressentent pas les choses de la même façon. Donc on a par exemple une petite fille, Anna, elle a vraiment pas envie qu'on lui en parle, c'est quelque chose qui est douloureux pour elle. C'est une petite fille qui a des yeux qui bougent un peu dans tous les sens, liés à une maladie. Et elle dit, voilà, c'est bon, je sais que j'ai les yeux qui bougent dans tous les sens, c'est pas la peine de me le rappeler tout le temps. Par contre, on a un petit garçon, par exemple Nathan, lui, il est en fauteuil, donc il a un polyhandicap. Lui, voilà, il n'était pas pour qu'on lui en parle pas, mais son message, c'était de dire « apprenez à me connaître d'abord, puis si on devient copain, ben, on pourra en parler ». Mais tous, entre autres, c'est de dire « voilà, nous abordez pas juste avec le regard du handicap ».
Gwenaëlle Boulet, rédactrice en chef d'Astrapi, dont le nouveau numéro avec ce dossier sur le handicap est en kiosque aujourd'hui, à 4 jours de la journée internationale du vivre ensemble, Astrapi qui coûte 5,20€.
Qui l'aurait prédit, une chaîne inattendue pour la finale de la Ligue des champions de football.
RMC Story, c'est sur le canal 23 de la TNT que cette finale sera diffusée en clair. Manchester City face à Chelsea, rendez-vous dans 2 semaines et demie, le 29 mai à 21h. Une chaîne inattendue donc, et nouvelle chaîne aussi, parce que RMC Story, qui appartient aux détenteurs des droits de la compétition en France, le groupe Altice, n'avait jamais proposé jusqu'à cette année la finale de la Ligue des Champions. L'an dernier, c'est TF1 qui l'avait diffusé en clair, PSG Bayern de Munich, et l'année précédente, BFM TV, qui pour cela d'ailleurs avait été mise en demeure par le CSA, diffusé en intégralité un match de football, contrevenait à sa convention.
À tous les coups, ils vont faire leur record de saison. C'est confirmé, il n'y aura pas de cérémonie des Molières cette année.
C'est France Télévisions qui l'a annoncé hier, cérémonie annulée en raison de la crise sanitaire. Elle reviendra, dit le groupe, l'an prochain, en 2022. En attendant, à la place, France Télévisions va programmer 5 soirées spéciales sur ses antennes, 5 spectacles de théâtre la semaine du 31 mai.
Une nouvelle recrue pour Fort Boyard.
Jean-Marc Généreux, l'animateur de Spectaculaire sur France 2 et ancien juré de Danse avec les Stars, information de nos confrères du Parisien. Jean-Marc Généreux va incarner un nouveau personnage, un trappeur canadien. Lui, le Québécois, le tournage commence aujourd'hui.
Je souris parce que je pense à l'accent du trappeur canadien, lui il l'a. Dans l'actualité des médias encore, un journaliste relaxé hier à Créteil.
Il s'appelle Taha Bouaf, s'il travaille pour un média en ligne très engagé à gauche, Le Média. Il était poursuivi pour outrage et rébellion envers un policier. C'était il y a 2 ans, en marge d'une manifestation, que Taha Bouaf se couvrait.
Une première pour terminer.
Une première pour Christophe Ondelat. Une nouvelle version de l'émission de récit qu'il anime chaque jour sur Europe 1 de 14h à 15h. Ondelat raconte, vous la connaissez peut-être, sûrement.
Oui.
Voici donc pour la première fois, Ondelat chuchote, version bonus, version chuchotée de l'émission d'aujourd'hui, version ASMR. Je laisse Christophe Ondelat vous la présenter.
Voici une histoire qui va vous détendre. Une histoire apaisante pour une fois, très apaisante. Et aussi d'ailleurs, je vous le dis, une histoire qui fera le bonheur des enfants, si vous en avez. Et notez que pour une fois, je vous propose 2 versions de ce récit. Une version normale et une version chuchotée pour tous ceux qui veulent s'endormir ou se détendre. Avec une très belle histoire. C'est l'histoire de Geoffroy Delorme. Il a vécu pendant 7 ans dans une forêt avec des chevreuils. Et il raconte tout ça dans un livre aux éditions des Arènes, L'homme chevreuil.
Voilà, L'homme chevreuil. J'hésite à reprendre une voix normale après cette version chuchotée. L'homme chevreuil en version chuchotée, ce sera disponible dès 15h. Aujourd'hui, en podcast, la version normale l'est déjà. Vous pouvez l'écouter. Une autre première à vous signaler, l'Antisèche, premier podcast du Journal du Dimanche. Il est produit par Europe 1 Studio et il est lancé aujourd'hui. Il s'agit en 3 minutes d'expliquer un mot, une expression, un lieu, bref, un élément marquant de l'actualité. Pour commencer aujourd'hui, cette question, qu'est-ce que l'esplanade des mosquées?
Merci beaucoup Antoine Genton. On vous retrouve demain pour les audiences et un nouveau journal des médias.
À demain.
Je précise que toutes ces infos et bien d'autres, on peut les retrouver dans la newsletter Média d'Europe 1. C'est gratuit et c'est sur europe1.fr.
Pas mal.
Dans un instant,
vous avez de l'avenir dans
merci,
ce domaine, Philippe,
merci, je vais me lancer. L'info média du jour arrive avec Mastermind, une revue de luxe française très épaisse et écrite en anglais. On va demander pourquoi à Marie-Amélie Sauvé, c'est la créatrice et la directrice éditoriale et artistique également, et Valérie Constantino, sa rédactrice en chef. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Le numéro 9 de la luxueuse revue Mastermind vient de sortir. C'est un petit événement en soi, car cette revue sort tous les 6 mois seulement et le format ressemble davantage à un livre d'art qu'à un magazine. Couverture rigide entoilée, 300 pages de papier glacé avec des photos assez sublimes, de très longs textes écrits dans un style très soigné et des entretiens fleuves avec des personnalités comme Charlotte Gainsbourg, Boris Cyrulnik ou Patti Smith. Et c'est pas tout. Mais à l'heure où on dit le support papier condamné, une telle entreprise peut-elle être pérenne, et si oui, comment? À moins que le but soit davantage d'éditer un objet de collection qu'un magazine de luxe. Bonjour Marie-Amélie Sauvé.
Enchantée, merci.
Vous êtes la créatrice et la directrice éditoriale et artistique de Mastermind. Avec nous Valérie Constantino, bonjour.
Bonjour Philippe.
Vous êtes la rédactrice en chef de Mastermind. Marie-Amélie Sauvé, d'abord, comment définiriez-vous Mastermind? Comme un livre d'art, comme une revue?
Alors c'est un peu entre une revue et un livre. On a essayé de faire un beau livre. Il est constitué de chapitres comme un livre.
Ouais.
Donc en fait, on voulait. Enfin, c'est surtout que je voulais faire un magazine qui soit intemporel et qui se garde comme un objet de collection.
Pourquoi ce titre Mastermind ? Il a à voir avec vous très personnellement.
Alors c'est assez personnel, oui, parce que quand je travaillais au Vogue américain, il y a longtemps, une petite dizaine d'années, je pense que les gens trouvaient que mon prénom était beaucoup trop long, donc ils m'appelaient MAS.
Marie-Amélie Sauvé.
Voilà, Marie-Amélie Sauvé.
Exactement. Ouais.
Et du coup, quand j'ai dû trouver un nom pour ce projet qui m'était très personnel, je cherchais un nom qui commence par mes initiales.
Vous êtes de la chance.
J'ai cherché, puis je suis tombée sur Mastermind.
Ouais.
Et je me suis dit, c'est très bien, c'est pas mal, Mastermind, ça va être comme ça, le nom d'un objet où je vais pouvoir inviter tous les masterminds que j'aime, que j'admire, que j'ai envie de rencontrer, quoi.
Vous avez de la chance que si moi je faisais un magazine, il s'appellerait PV, ce qui n'est pas très élégant. ça rappelle un peu Égoïste, pour qui ne connaîtrait pas, c'était cette revue très luxueuse.
Absolument,
qui sortait
ouais.
une fois par an, c'est dans les ouais. années 70, 80,
ouais.
je me souviens.
Vous savez,
créé par Nicole
toujours.
Wisniak, le grand égoïste.
Ouais.
Ah, il paraît, c'est erratique, on a regardé, le dernier remonte à il y a 3 ans.
Oui, parce
que c'est ça, il y a 3 ans.
Valérie, parce qu'en
Constantino.
Fait, elle a en fait décidé que le numéro ne sortirait que quand elle serait prête. Donc, s'il lui faut 2 ans de préparation pour trouver le bon sujet,
ouais.
la bonne couverture, c'est
puis bien. Surtout, elle avait un partenariat avec Richard Avedon, qui est un des plus grands photographes du monde, quand
ouais.
même. Donc, c'était ça aussi la force de cette revue. Elle avait... les photos d'Avedon étaient absolument extraordinaires quand même. Et le contenu était bien aussi, le contenu était assez exigeant.
Je reste auprès de Nicole Wisniak, si j'ose dire. Vous connaissez peut-être le conseil que François Sagan lui avait donné, vous la connaissez ou pas ?
Pas du tout.
Sagan lui avait dit « Ne fais écrire que des écrivains et ne t'adresse pas à des spécialistes ». Je me tourne vers vous, Valérie Constantino. Comment sont sélectionnés les contributeurs de Mastermind ? Est-ce qu'il y a un comité de rédaction ?
Non, il n'y a pas forcément un comité de rédaction. En fait, ce qu'on fait tout d'abord, on essaie de réfléchir avec Marie-Amélie et Jérémy, l'équipe, à des thèmes. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous... Enfin, dans le magazine, en fait, qui est donc divisé en chapitres, mais en fait, chaque chapitre a un thème qui
oui.
peut être
j'ai
une idée,
ça.
Une personnalité ou un lieu. Donc tout ça... Tout étant en transversal, le but étant de pouvoir décliner justement tout ça. Et ensuite, on essaie de trouver des bonnes plumes qui peuvent être des journalistes ou des auteurs sur des précédents numéros, par exemple.
Le meilleur
exactement.
Journaliste possible pour
mmh. le Slimani ou Marie Dariussec ouais. ont écrit ouais. aussi pour le magazine. Mais par exemple, Constance Debré, qui écrit Divinement Bien, a fait une interview aussi pour nous de Kristen Stewart. Ensuite, il y a certains journalistes avec qui on a des affinités, on pourrait dire, ou qui sont force de proposition, comme certains journalistes, comme Jean-Marie Durand ou ouais. Christophe Comte, qui a travaillé avec Serge Kaganski.
Ouais, bah, 3 anciens des Inrocks.
Oui,
il y a beaucoup de gens,
Olivier,
qui ont travaillé aux Inrocks.
Ouais, mais je peux citer aussi Clémentine Gozal, qui a pas mal aussi écrit pour nous, ou Tania de Montaigne, qui n'est pas une ancienne des Inrocks.
Et si lui était encore vivant, est-ce que vous lui auriez demandé d'écrire dans votre revue ? On l'écoute.
Sur la santé revenue, sur le risque disparu, sur l'espoir sans souvenir, j'ai écrit ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer Liberté.
Vous avez reconnu le fameux poème d'Éluard Liberté.
Paul Éluard, oui.
Mais surtout, c'était la voix de Paul Éluard.
Oui,
c'est génial.
Ça. Ouais. Vous
ouais.
le citez en exergue d'un chapitre consacré à la menace des libertés individuelles. Pourquoi ce choix ? Pourquoi Éluard ?
Pourquoi Éluard ? Parce que c'est Jean-Marie Durand qui écrivait un papier justement sur les libertés, comment les libertés sont menacées aujourd'hui en période de surveillance globale et de pandémie, comment les restrictions et les gens acceptent de plus en plus de perdre leur liberté. Et il a eu cette très belle idée au départ d'écrire Liberté, pas J'écris ton nom, mais Liberté, j'efface ton nom.
Voilà.
Donc de Liberté, j'efface ton nom, on a trouvé tous ensemble que c'était un très joli titre de... d'articles, et Liberté, j'efface ton nom est devenu ce papier de Jean-Marie.
Alors, ce qui est assez étonnant, c'est que dans votre édito, Marie-Amélie, vous vantez une valeur qui n'a pas bonne presse en ce moment, la famille. Bah vous décrivez cette idée de la famille comme noyau fondateur et force créatrice et la ligne directrice de ce 9e numéro. Pourquoi la famille ?
Mais parce que dans cette crise sanitaire, je trouve que la famille, c'est une très belle valeur. Justement, on a besoin de valeurs refuge et je trouve que...
Pardon de vous dire ça, on n'a pas le choix. Hein.
On n'a pas le choix,
si on n'a pas le droit de sortir, on ne peut
non,
pas
non,
faire
on
autrement.
Non, on n'a pas le choix. Et c'est une valeur qui me tenait très à cœur et qui m'est très personnelle. On a une interview d'ailleurs de Jérôme Salomon que j'ai adoré. Puisque c'est l'arrière-arrière-petit-fils d'Alfred Dreyfus.
Ouais. C'est aussi le patron de la santé publique,
voilà,
c'est ça
exactement.
Je me souviens plus son titre exact.
Directeur général de la santé.
Voilà.
Merci Valérie.
Et qui donc... on s'est demandé comment... Enfin, moi, je me demande comment on arrive à se construire, à vivre... à transmettre à ses enfants quand on vient d'une famille qui a connu de tels drames. Donc, et c'est très bien écrit, c'est lui qui a écrit l'interview et c'est écrit avec beaucoup de grâce, je trouve.
Marie-Amélie dit à écrire parce qu'en fait, ça a été fait contexte sanitaire oblige, ça a été fait par mail,
ouais.
Parce que c'était
voilà,
vraiment
ouais.
compliqué. Donc en fait, il a pris, la journaliste Ava a lui envoyé des questions et il a pris vraiment énormément de temps à répondre.
Et c'est très joliment écrit, je dois dire.
Quoi
c'est très émotionnel.
Il y a quelque chose que je n'ai absolument pas dit encore, c'est que c'est en anglais. Mais est-ce possible ? Réponse tout de suite après ça, on parle de Mastermind, nous sommes avec Marie-Amélie Sauvé et Valérie Costantino, à tout de suite.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Vandel.
En compagnie de Marie-Amélie Sauvé, elle est la créatrice de ce magazine que j'ai ici, ce qui s'appelle Mastermind, M-A-S, c'est l'acronyme, ce sont vos initiales. Valérie Costantino, sa rédac chef. Mastermind, je l'ai dit, a cette particularité d'être édité en anglais. Et pour la première fois, le numéro est accompagné d'un supplément de traduction en français. Et encore, tout n'est pas traduit. D'abord, pourquoi en anglais et pourquoi vous coupez d'une partie du lectorat français ?
Alors, pourquoi en anglais ? C'est un peu une habitude que j'ai prise parce que j'ai commencé ma carrière au Vogue français, qui était un magazine qui était fait à Paris,
ouais.
Mais qui était édité par un groupe de presse qui s'appelle Condé Nast, qui est un groupe américain.
Ouais.
Donc, en fait, c'était un journal qui était fait en France, mais qui était très international. Après, je suis partie faire ma carrière aux États-Unis, au Vogue américain, au W, au New York Times. Donc, j'ai pris l'habitude, en fait, de travailler pour des journaux...
Mais attendez, ici, on est une émission médias et vous me parlez de vous, mais moi je pense aux lecteurs.
Alors,
pourquoi faire
lecteurs...
un journal en anglais alors que les gens ici
non,
parlent
alors,
français
en fait, déjà aussi, je pense qu'il y a plus de gens qui lisent l'anglais que le français, donc
dans
on
le
a
monde.
Plus dans le monde.
Donc c'est un magazine
mais,
mondial.
Alors c'est un magazine exactement.
Enfin, à vocation
c'est, planétaire. En fait, à vocation internationale. Celui-ci, il a été fait pendant le confinement, donc on a plus de personnalités françaises qu'internationales cette
ouais.
fois-ci. Et c'est pour ça que nous avons fait ce supplément en français. Mais que j'ai trouvé super, en fait. Et je me suis rendu compte que, comme c'est un magazine qui est fait en France, nous allons continuer, dans le futur, à l'éditer. Enfin, mon rêve, c'est de faire aussi une édition française aussi. Vraiment.
Alors, deux questions. Alors, je précise que le prix unitaire de cette revue est de 30 euros, c'est bien
ouais.
ça ?
Oui, c'est 30 euros, ouais.
Voilà, 29 livres et 49,99 49,99 c'est écrit là sur la
ouais.
première page.
Ouais.
Il y a bien écrit 30 euros. Le tirage de Mastermind, c'est combien ?
20 000.
C'est 20 000, ouais.
Et vous les vendez à qui et dans quel pays ?
Dans 20 pays, un peu partout dans le monde. Alors, en France, on va à Paris.
Ouais.
Alors, Paris étant dans les points de distribution, les bonnes librairies, dirons-nous, qui sont les corners, Palais de Tokyo, Beaubourg,
oui, les librairies des musées.
Aussi,
ouais.
voilà,
vous avez dit Beaubourg, j'ai cru que vous alliez dire Bobo.
Non,
Beaubourg.
Parce que j'allais vous demander quelle était la cible.
Alors, la cible, c'est marrant parce qu'en fait, c'est des gens très jeunes, enfin assez jeunes, c'est
ouais.
des gens... entre 25 et 40 ans à peu près.
Mmh.
Et alors, il y a autant de filles que de garçons. Ça me met en joie, parce que c'est pas qu'un magazine féminin. Et c'est plutôt jeune. Donc moi, j'adorerais que ça s'étende à tous les âges, en fait.
Ouais.
Je trouve que, voilà.
Le journal est rentable ?
Oui, il est rentable.
Il a
un modèle économique, tout à fait.
Ça allait être ma question. Quel est le modèle économique du journal ?
Alors,
il y a
le modèle économique, en fait, on vit grâce aux annonceurs. J'ai beaucoup de chance parce que j'ai des annonceurs qui sont très, très fidèles depuis le premier numéro.
Mm-hmm.
Alors, évidemment, on cherche toujours de nouveaux annonceurs. C'est la question éternelle, hein,
évidemment,
bien sûr.
Comme tous les magazines.
J'ai des annonceurs
radios,
qui me font énormément confiance
ouais.
aussi. Donc,
alors, il y a une petite particularité, c'est que vous êtes édité par une agence de communication. BETC et de pub. Ouais.
Oui, de pub.
BETC Étoile Rouge, dédié en partie au luxe, justement.
Oui, parce que nous sommes tous des partenaires du luxe. Je viens du luxe, BETC aussi vient du luxe. Donc, l'union fait la force. On s'est associés voilà, pour être plus forts, en fait.
Qu'est-ce que ça change d'avoir comme éditeur une agence de pub plutôt que, qu'un éditeur, si j'ose dire, classique?
Je pense que c'est dû à la rencontre que j'ai faite avec d'abord Brune Buonomano.
Non, mais je veux dire, qu'est-ce que ça change dans le texte? Alors, je vais me tourner vers Valérie Costantino. Ça change rien du tout.
Pour
vous
moi,
avez
rien
pas,
du tout.
Vous n'avez pas d'injonction à dire du bien de marques qui sont
agencées? Non, pas du tout.
Absolument,
non,
rien, aucune injonction. Très franchement,
on est très libre. On a une... D'ailleurs, c'est un grand luxe, hein, parce que c'est un journal qui n'est pas du tout formaté. On a une très grande liberté éditoriale, franchement.
Franchement, et j'ajouterai en plus que ce qui est vraiment agréable aussi au niveau du travail, pardon, avec le micro, décidément.
Ouais. Il suffit de parler en face.
Oui, ouais, pardon. C'est que en fait, cet espace de liberté aussi fait qu'il y a quand même un certain formatage aujourd'hui dans la presse, qui est normal, enfin dans tous les médias. Là, si on a envie de faire 20 pages sur Patti Smith ou le nombre de signes avec qui on veut, il y a une liberté éditoriale énorme qui nous permet justement de travailler sur ce temps long pour essayer d'en faire, si on peut, à l'époque de la rapidité instagrammable, d'avoir un objet qu'on pourra relire à nouveau, si on en a envie, dans quelques années, en anglais, Philippe.
Je note cette phrase, un grand luxe de travailler dans ce magazine de luxe. Vous touchez quel public? Il y a quelque chose qui m'a vraiment frappé, il consacrait un chapitre au béton, avec un très beau texte d'Olivier Boucreux sur la ville du Havre, qui a été reconstruite donc tout en béton. Pardon de dire les choses, mais est-ce que c'est pas un peu snob, un peu bobo, de faire la promo du béton rectangulaire auprès des CSP+, qui voudraient tout faire sauf habiter dans ces endroits-là?
Vous croyez que les bobos aujourd'hui ne voudraient pas habiter au Havre, à la grande mode, je suis d'accord,
l'impression qu'ils aiment les beaux appartements du boulevard Saint-Germain, de ce que j'en connais.
Mais vous croyez qu'ils n'aiment pas un joli Auguste Perret?
Répondez pas à une question par une autre question. Vous voyez très bien ce que je veux dire.
Non, alors moi, je vois très bien, mais je pense qu'il n'y a pas... En fait, on s'est dit, l'idée du béton, en fait, était vraiment intéressante pour nous à décliner aussi au-delà du Havre, parce que ça pouvait être une autre ville. L'idée, c'était aussi de parler de Le Corbusier, d'avoir exactement Tadao Ando qui réhabilite la Bourse du Commerce et expliquer en quoi le béton était tendance aujourd'hui aussi, pourquoi on revenait vers le béton. Alors, de fait, on aurait... peut-être pas été confiné, peut-être qu'on serait parti à l'étranger pour faire un photoreportage dans notre ville. C'est vrai que là, le Havre, c'était quand même plus facile, d'envoyer une équipe que de partir à l'autre bout du monde, ça c'est sûr.
S'ensuit après ce papier sur le béton, très très bien écrit, une interview du maire du Havre, Édouard Philippe, l'ancien Premier ministre, mais également, il y a une interview, c'est un autre sujet, de l'ancien président de la République, François Hollande, mais aussi de l'ancienne garde des Sceaux et figure de la gauche, Christiane Taubira. Pourquoi cette incursion dans la politique?
Alors, pourquoi cette incursion dans la politique? Parce qu'en fait, quand on réfléchissait, on avait, justement, par rapport au sommaire, on avait une envie... alors, pour répondre, pourquoi Édouard Philippe, par exemple? Édouard Philippe, parce que du Havre, c'était logique. On lui a pensé tout de suite et il parle en plus du béton.
Mais l'ancien président?
Non, l'ancien président, c'est parce qu'on avait un chapitre autour des femmes politique, où on déclinait, où on avait envie de faire Christiane Taubira, Bénazir Buteau, enfin il y a pas mal de choses autour de ça. Christiane Taubira, pourquoi...
Pardon, les gens qui nous écoutent se disent mais François Hollande n'est pas une femme.
Non, justement, ça nous intéressait d'avoir...
d'avoir un autre angle,
d'avoir
en fait,
un autre angle,
dans
le regard d'un homme.
On a plein d'éclairages différents et des angles différents, donc on trouvait ça amusant
de voir le regard d'un homme de pouvoir sur ces femmes qu'il a côtoyées.
Parce que ce que vous n'avez pas dit, c'est que François Hollande ne répond pas à une interview classique, mais une interview anglaise où il parle des femmes de pouvoir qu'il a rencontrées. Il a été difficile à convaincre. Je pense à lui quand il disait mon ennemi c'est la finance et peut-être qu'il n'avait pas envie de donner une interview à un magazine de luxe.
Il n'a pas été tellement difficile à convaincre.
Ah bon?
Je crois que quand, en fait, c'est très intéressant quand on envoie le magazine aux gens que l'on veut inviter, ils sont assez séduits par l'objet.
Ouais.
Et donc ça nous fait vraiment plaisir. Oui. C'est vrai que...
Il nous reste très peu de temps, Marie-Amélie. Vous promettez dans votre édito que vous allez reverser une partie des recettes à Médecins Sans Frontières.
Ouais.
D'abord, ça fait plaisir parce que ça sous-entend que vous avez des recettes. Donc, il y a tellement de magazines qui perdent de l'argent que je suis ravi de le signaler. Maintenant, ma question, attention, quel pourcentage des recettes vous allez donner à Médecins Sans Frontières?
Je ne sais pas exactement quel pourcentage. Je suis absolument désolée. Je ne sais pas répondre vraiment à cette question.
Non, mais c'est 1% ou c'est 10%?
Alors là, bon. Je ne sais pas du tout.
Je pense
mais
que c'est plutôt 10% qu'un pourcent.
Voilà, ouais. On restera sur cet inconnu. Merci beaucoup, Marie-Amélie Sauvé. Merci, Valérie Costantino. Je le rappelle, le numéro 9 de Mastermind est en vente au prix de 30 euros. Il est magnifique en anglais et non moins magnifique avec sa traduction en français. Quoique les traductions sont parfois dans la partie anglaise. Parce que les gens qui vous ont écrit en français, c'est l'inverse. Exactement. Tout le monde m'aura compris. Merci beaucoup. Dans un instant, on va parler de jeux vidéo. Vous connaissez Canard PC ? Vous avez le droit de dire non.
Oui.
C'est un magazine indépendant qui parle de jeux vidéo. On sera avec son co-créateur. Il s'appelle Yvan Godet. Il est remonté comme un coucou. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vondel.
Bonjour Yvan Godet.
Bonjour Philippe Vondel.
Vous êtes directeur de la publication de Canard PC. À la base, c'est un journal, c'est devenu toute une galaxie multimédia. Il y a le mensuel, il y a le trimestriel Canard PC Hardware. Vous avez également un site internet, une chaîne YouTube et des émissions sur Twitch et une chaîne Twitch. Et c'est pas fini. Canard PC, vous l'avez fondé en 2003, cofondé. Dans les années 90, vous travailliez pour Joystick, l'un des plus gros magazines de jeux vidéo en France. Pour Canard PC, c'était quoi l'idée de départ ?
C'était d'être totalement indépendant, c'est-à-dire qu'on quittait Joystick qui avait été vendu par le groupe Hachette à l'époque à un concurrent qui ne nous plaisait pas du tout. Mm-hmm. Donc toute la rédaction s'est barrée et cinq journalistes ont décidé de refaire ce qu'on aimait faire dans les conditions dans lesquelles on voulait le faire.
Mais à la base c'était déjà un magazine sur les jeux vidéo, pas sur les PC du tout.
Tout à fait.
Vous avez juste profité du jeu de mots Canard PC qui fait rire tout le monde et dont Mathieu Béliard qui en revient toujours pas. Dans le premier édito, Canard PC définissait ainsi sa ligne éditoriale, je cite, « Indépendance, sérieux, clarté, refus total de la vulgarité, ça c'est du journalisme bordel ». Et il y avait déjà de l'humour.
C'était du journalisme total, oui.
Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Canard PC, je crois qu'on l'a compris. Là, vous avez une actu, vous lancez une campagne Ulule pour financer de nouveaux projets, on va en parler, mais d'abord le constat. Avec le confinement, les ventes de votre journal papier ont baissé de 20%. Comment se porte le journal ? Comment se porte le groupe ?
Alors, ça se porte un peu comme on peut, mieux qu'on aurait pu le craindre, parce que cette baisse des ventes en kiosque qui est due au confinement et au fait que les points de vente est fermé, elle a été en partie compensée par une hausse des abonnements papier. On est très soutenu par notre communauté. Mais bon, c'est une période difficile pour la presse papier, au sein d'une longue période difficile pour la presse papier, comme vous le savez.
La question qui fâche, vous vendez combien ? Quel est votre lectorat ? Comment on peut le situer ?
Alors normalement, Canard PC, c'est entre 18 et 20 000 exemplaires par mois. Là, depuis le confinement, on est plus proche des 15 000.
Votre lectorat, c'est qui ? Ce sont des gamers ? C'est des nostalgiques ? C'est les parents ? C'est les enfants ?
C'est la moyenne des lecteurs, c'est 32 ans, je crois. Ouais. Donc oui, ce sont des joueurs, des passionnés, mais pas des ados.
Comment déjouer ce paradoxe ? Vous avez un magazine papier qui s'adresse à des gens, et notamment des jeunes, dont la culture digitale 2.0 tourne justement le dos au papier.
Oui, bah c'est en partie pour ça qu'on s'adapte depuis 2 ans et qu'on est sur Twitch, qu'on est sur YouTube, qu'on est sur le web. Ouais. On essaye de proposer ce qu'on sait faire à un public qui a changé ses habitudes et ses modes. Et pour l'instant, ça marche plutôt pas mal.
Et vous faites rigoler les nouveaux venus aussi ou pas ?
Bah, c'est l'idée, ouais.
Hein ? Parce qu'on dit que l'humour, c'est générationnel. Est-ce que ça fait rigoler vos nouveaux lecteurs ?
On essaye d'avoir aussi un côté générationnel dans la rédaction, parce que sinon ça marche pas. Si on avait tous 60 berges, ce serait pas possible.
Ouais. Bien sûr, parce qu'il y a beaucoup d'humour dans Canard PC. Votre magazine, c'est un peu construit sur le calembour quand même.
Oui.
Je me suis dit, on est dans le libé de la grande époque. Exemple, vous testez les jeux. Alors, je vais pas dire les jeux parce que je les connais pas tous, mais j'ai relevé ces titres. La soupe au shoot, à la recherche du sang perdu, le diable s'habille en sépia, la gloire de mon repère, et mon préféré, bordel de nerd. Vous pouvez dire aux plus jeunes ou aux plus âgés ce qu'est un nerd. Je croyais qu'on utilisait plus ce mot, le nerd.
C'est vrai qu'on l'utilise.
C'est quoi un nerd ? C'est quoi un nerd ?
C'est devenu geek aujourd'hui, ouais. Le terme approprié.
Voilà, c'est le type à la fois bas du front et très intelligent qui est toute sa journée dans son ordi.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Canard PC, c'est la rencontre entre Que Choisir et Fluide Glacial, en fait.
Pas mal. Vous en êtes un, vous, de nerd, de geek ?
De moins en moins. Je suis père de famille maintenant.
Ouais. Vos enfants ont quel âge ?
10 presque et 12.
Qu'est-ce que vous leur dites quand ils passent leur temps devant leurs jeux vidéo ?
Alors, ils ne passent pas leur temps devant leurs jeux vidéo, justement. Mais ils ont... Non, on a une pratique qui est importante, mais qui est régulée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça prenne tout. Les enfants, ils sont souvent happés par l'écran, et c'est ça qui est embêtant, en fait. Mais il faut aussi lire, il faut aussi regarder des films.
Alors il faut dire que vous êtes vraiment branché sur plein de choses, c'est un journal très bien implanté. J'aurais dû quand même être alerté par la couverture parce que le titre, c'est un bon coup de pied au fief. Et à part la blague, c'est un nouveau jeu Age of Empires 4 qui sort en septembre. Mais oui. Vous avez déjà pu le tester, donc vous avez des très très bonnes relations avec tout le milieu, j'imagine.
Oui, bah, ça fait partie de notre métier, effectivement, d'être en relation avec les éditeurs, d'avoir comme ça des petites previews. C'est des choses qui sont très organisées, qui ne sont pas spécifiques à Canard PC. Ça fait partie de cette industrie, comme l'industrie du cinéma va sur les tournages.
Normal.
Comme la presse de cinéma, je veux dire.
Alors, il y a Canard PC, le mensuel, et il y a aussi Canard PC Hardware. Hardware, c'est le matos, c'est le matériel.
Exactement. C'est les nouvelles technologies d'un côté et tout le matériel informatique de l'autre. Donc, c'est un journal qui fait beaucoup de tests.
Ouais.
Parce que ce sont des matériels qui valent cher, qui ont souvent des budgets marketing importants, et donc il faut faire le tri entre ce qui est de la blague et ce qui vaut le coup.
Quel rapport vous avez avec les annonceurs ? Il y a de la pub ou pas ?
Il y a de la pub chez Press Nonstop, donc qui est la maison d'édition des deux magazines, c'est assez faible dans le chiffre d'affaires, donc on a des rapports tout à fait indépendants par rapport à ça.
C'est ce que j'allais dire, vous avez le droit de dire qu'un produit est une énorme daube si vous estimez que c'en est une.
Oui, d'ailleurs un des actes fondateurs chez nous, ça a été un procès que nous a fait un fabricant d'alimentation, donc c'est le truc qui amène l'énergie au PC.
Ah, d'alimentation, le 220 volts.
Voilà.
La prise dans le mur.
Et qui flambait lors de nos tests.
Ouais.
Donc on l'a dit, on l'a écrit, on l'a même filmé.
Ouais.
Ils nous ont fait un procès qui aurait pu nous couler. Si, enfin, ils nous ont menacé, il fallait qu'on recule.
Vous avez gagné.
Et on a fini par gagner, mais c'était très risqué de notre part. Et c'est symptomatique de ce qu'on fait ici.
Et ça fait quand même très très peur pour la presse, parce qu'on peut perdre un procès en ayant dit la vérité.
Ah, tout à fait.
Vous restez avec nous, Yvan Godet. On continue de parler de Canard PC et surtout de cette campagne de financement que vous avez lancée et avec quel succès sur Ulule. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie d'Yvan Godet, c'est le directeur de publication de Canard PC. C'est un magazine, c'est un mensuel, il y a aussi un trimestriel qui parle de matériel. Il s'appelle Canard PC Hardware. Il y a aussi une chaîne YouTube, il y a aussi une chaîne Twitch et d'autres projets. Donc, je l'ai dit, Canard PC lance une campagne sur Ulule, campagne de financement pour vos futurs projets. Vous annoncez un nouveau site, des nouvelles rubriques, un podcast, de nouvelles émissions sur Twitch, un nouveau format papier. L'objectif, vous vouliez combien de... Quelle somme ?
On voulait 80 000 euros pour démarrer.
Ouais.
Et aujourd'hui, on est à plus de 300% de l'objectif, donc on est super heureux, évidemment.
Vous êtes même plus que ça. Vous voulez 80 000 euros, vous donniez 35 jours, vous les avez atteints en une heure. Et j'ai regardé ce matin, vous êtes à 265 000 euros, soit 331% sur Ulule. Il y a les pourcentages qui sont calculés. Au-dessus de votre objectif, la question simple, qu'allez-vous faire avec cette somme ?
Alors, on l'a expliqué. Déjà,
Je connais la réponse, je vais le dire aux auditeurs. J'ai trouvé ça assez unique, je n'avais jamais vu. Ils indiquent, palier par palier, si on a telle somme, voilà ce qu'on va faire. Si on a telle somme, voilà ce qu'on va faire. Et notamment, des embauches. Racontez.
Voilà, exactement. Ouais. On a fait des paliers. Donc là, aujourd'hui, on a déjà ajouté au projet le fait d'avoir des applis pour téléphone avec les PDF gratos pour les abonnés, le fait de rajouter des émissions. Et le dernier palier, celui qu'on va atteindre, je pense, cette semaine, on espère, on croise les doigts, c'est effectivement de prendre des renforts rédactionnels pour augmenter encore le contenu qu'on va fournir sur le site, puisque la grande nouveauté par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire le jeu vidéo et le hardware, les tests des matériels et des jeux, c'est de rajouter toute une partie sur les jeux de plateau et les jeux de rôle qui sont un secteur en pleine expansion depuis et qui a plein de points communs avec nos joueurs et notre public.
Qu'est-ce qu'on appelle des jeux de plateau ?
Alors, ce sont des jeux de société un petit peu...
Quelle différence justement avec les jeux de société ?
Voilà, c'est des jeux de société pour adultes. Donc, des jeux de stratégie, un peu complexe, un peu marrant, qui ont pas mal de connexions avec le milieu du jeu vidéo, dans un sens comme dans l'autre. Il y a des jeux vidéo qui sont adaptés en jeu de plateau, il y a des jeux de plateau qui sont adaptés en jeu vidéo.
En gros, c'est les petits chevaux, mais la partie peut durer 3 mois.
Voilà, c'est des petits shows, mais avec des
très, très, très
voilà,
améliorés.
C'est ça, tout à fait.
Je plaisante, mais je veux dire par là que ça peut se jouer avec des dés, avec un plateau qu'on pose sur une table.
Voilà, ça se joue à plusieurs, souvent sur une table, avec un plateau. C'est du papier, c'est du carton, c'est des figurines, ça, c'est des tas de choses. Et c'est des produits qui sont très chers, donc il vaut mieux se renseigner avant d'acheter une boîte à 80 ou 100 balles et se retrouver avec un truc qui est débile, quoi.
Sur votre site, vous indiquez des paliers, vous dites ce que vous allez faire de cet argent. Là encore, j'avais jamais vu ça. Vous dites... On va mettre 38% pour le développement du nouveau site web, 28% pour le lancement de la nouvelle formule du journal, 24% pour les nouvelles activités éditoriales, comme les émissions de télé, 10% pour les frais de campagne. sont des vrais chiffres, vous l'avez dit un petit peu comme ça, au doigt mouillé.
C'est tout à fait des vrais chiffres. Alors, comme on a explosé les objectifs, ça, c'est un peu obsolète, parce que forcément, il y a beaucoup d'argent qui va aller dans des suppléments. Mais oui, c'était tout à fait les vrais chiffres.
Alors, ce n'est pas votre première campagne sur Ulule. En 2018, Canard PC avait déjà fait appel aux dons pour 100 000 puis 150 000 euros, si j'ai bien compris, pour tenir, c'était après le naufrage, Prestalis, qui distribuait les journaux. Il y a eu une affaire, on a parlé beaucoup de fois ici dans Culture Média. Vous aviez également levé près de 260 000 euros sur Kickstarter pour lancer une version en ligne. Que sont devenues ces sommes? Est-ce que vous avez pu faire ce que vous souhaitiez faire?
Alors, le Kickstarter, c'était en 2007, c'était pour lancer le site internet. On n'en avait pas. Donc aujourd'hui, 5 ans après, finalement, on lance une nouvelle version de ce même site. Donc on l'a fait entre-temps. On a eu un certain succès avec ce site, pas mal d'abonnés numériques. Et aujourd'hui, il faut changer un peu l'option, le remettre à jour. Et puis, on change aussi le projet, on enrichit ce qu'on fait. Et ma foi, pour la 2018, le Ulule par rapport à la faillite de Prestalis, on est encore vivant. Donc ouais, ça a marché. Merci beaucoup à tous.
Les gens qui donnent de l'argent et qui nous écoutent, ils revoient leur argent ou c'est juste un don et c'est du mécénat?
Alors, c'est pas du don. À chaque fois, nous, on vend quelque chose. C'est-à-dire qu'il y a des campagnes qui sont sur le don pur. Nous, on pré-vend des abonnements, en réalité. Donc, ils ont eu leurs abonnements.
D'accord.
Tout le monde a eu 60 objets. Bon, il y a des mugs, il y a des tasses, il y a des petits goodies. Mais tout le monde a eu ses contreparties.
Et ce qui n'existait pas auparavant, et pour cause, la chaîne même n'existait pas, c'est vos émissions et votre chaîne sur Twitch. On trouve quoi de Canard PC sur Twitch? Twitch, je dis, c'est la chaîne des gamers, en gros, pour faire court.
Oui, c'est ça. C'est la vidéo sur Internet, en streaming. Ça fait 2 ans qu'on fait ça. On a plusieurs formats d'émissions qui sont réguliers. Une émission tous les 15 jours qui réunit la rédaction et qui parle des sujets d'actualité, des émissions thématiques. Et puis, dans la semaine, nos journalistes se mettent devant un écran, devant une caméra, et essayent des jeux en direct avec les spectateurs. Font des démos, des jeux que peut-être on a en avance par rapport à eux.
S'ils essayent le jeu en direct, ça peut durer combien de temps? Un jeu prend 4 heures.
C'est souvent des sessions qui durent 2 heures, disons, mais qui peuvent se renouveler. Par exemple, en ce moment, un de mes associés, il est sur un jeu, ça fait, je ne sais pas, 10 ou 20 fois qu'il fait 2 heures dessus. Et donc,
je souris parce que est-ce qu'il a un public qui le regarde?
Mais tout à fait.
Il y a des gens qui regardent 10 ou 20 fois quelqu'un essayer un jeu.
Et qui progressent avec lui dans la partie, qui voient comment le jeu se développe, comment sa partie se développe, qui participent au choix aussi qu'il y a à faire quelquefois.
On est jeudi, mais je vais le dire quand même, vous avez une matinale le mardi. J'adore le nom. La marginale, voilà. C'est simple à savoir, c'est la matinale du mardi, c'est la marginale. Alors, j'ai appris hier, ce que je vous ai regardé, vous faisiez une sorte de conférence avec votre équipe, notamment le DA, le directeur artistique, vous allez revoir le graphisme des émissions.
Oui.
Vous me faire que ce soit un petit peu plus dynamique. J'ai regardé, on est à la radio, je ne peux pas montrer d'image, mais pour dire les choses de manière courte, c'est très très flashy, très coloré, ça bouge dans tous les sens, il y a du mauve, il y a du fluo, il y a du fuchsia partout.
C'est vrai.
Et je me suis dit, la chance aux chansons à côté, c'était les Mormons. Pourquoi ce choix artistique?
Alors, il faudrait interroger notre directeur artistique.
Je veux dire par là, est-ce que c'est l'esthétique des gens que vous visez?
Non, alors je crois que c'est plutôt des références. Alors, peut-être dans un sens, parce que je pense qu'il y a pas mal de références à ce qui a été MTV à son lancement, par exemple. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Bien sûr, malheureusement, je m'en souviens.
Voilà, ce logo qui coulait.
Ouais.
Donc, il y a un esprit comme ça, remis au goût du jour. Et je pense que c'est cette dynamique-là, télévisuelle, avec quelques clins d'œil qui a été choisi.
Complètement oublié de vous en parler. Il y a le site internet que vous allez rénover, comme vous l'avez dit. Site sans publicité, dites-vous, ça c'est facile à comprendre.
Oui.
Et également, c'est ce qui m'a intéressé, sans mouchoir. C'est-à-dire
Alors, depuis le début, depuis 2016, quand on a lancé le site, on s'est appliqué à faire ça. Et effectivement, aucun tracker, aucun mouchard. C'est-à-dire que les cookies...
Pas de cookies.
Il y a des cookies, parce que ce sont les cookies de session. C'est-à-dire, si vous réglez votre site pour avoir tel ou tel truc, on a besoin d'un cookie si vous voulez garder vos réglages, mais vous pouvez les refuser. Mais il n'y a aucun tracker, même pas les trackers Google ou réseaux sociaux, il n'y a rien. C'est-à-dire que personne ne sait ce que vous faites chez nous, et nous, on ne sait pas ce que vous avez fait avant quand vous venez chez nous, ça ne vous regarde pas.
Tout le monde pourrait faire ça, tout le monde pourrait faire comme vous,
absolument.
Mais vous l'avez fait, il y a très peu qui le font.
Alors, le problème, c'est que ce sont les publicités qui demandent les trackers. Donc, si vous êtes financé par la pub, vous êtes obligé de fliquer vos internautes.
Voilà.
Et nous, on refuse ça.
On n'est pas fliqué chez vous sur le site de Canard PC. Merci beaucoup, Yvan Godet, directeur de l'application de Canard PC. Je rappelle cette campagne sur Ulule. Il reste combien de temps encore?
Il reste une petite dizaine de jours.
Voilà, et vous pourrez engager 2, 3 ou 4 personnes. Merci d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
En direct dans Culture Média. L'émission continue, évidemment. Il y aura le rappel des titres de 10h. Et puis, on va recevoir Eva Rock Jacques pour un zapping du lendemain tout en culture et Bertrand Chameroy pour un écran de veille tout en pouvoir d'achat. Nos invités culture ne font qu'un, c'est Dorian et César, alias le groupe Offenbach, un des duos de musique électronique les plus en vue du moment. On dit c'est la nouvelle French Tech. Ils arrivent, ils seront là. Et puis dans les indispensables, la chanteuse américaine Saint-Vincent, c'est Angèle Châtelier qui va nous en parler. Et 12 héros Marvel avec Clément Le Saffre. Pas moins de 12. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.